OK. Est-ce qu'on est plus à risque qu'on le pensait de contracter le virus quand on est dans un milieu fermé? Donc, le contracter en respirant l'air de ce milieu fermé, ça pourrait être une maison, ça pourrait être un commerce, ça pourrait être un autobus, ça pourrait être c'est ça, là, tu sais, un avion. Caroline Duchesne, professeure de microbiologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les bio aérosols à l'Université Laval. Bonjour, professeur Duchesne.
Bonjour.
La réponse à la question, c'est oui. On est peut-être plus à risque qu'on le pensait?
Bien, est-ce qu'on le pensait pas? Je suis pas sûre qu'on le pensait pas. Je pense que à date, qu'est-ce qui est observé depuis le début de la pandémie, la grande majorité des infections ont été acquises dans l'air intérieur. Donc, on imagine que plus la promiscuité est grande, plus il y a de personnes qui sont proches les uns des autres, plus il y a de chances que la maladie se transmette. Ce qui aide à l'extérieur à quelque part, d'après ce qu'on comprend, c'est les courants d'air qui vont faire en sorte que les contaminations autour des personnes vont se diluer beaucoup plus vite. Donc, je pense que c'est observé depuis longtemps. Ce qui est en train d'émerger, c'est le rôle de l'air par rapport aux fameuses gouttelettes dont on parlait au début, là.
Donc, résumez-nous l'état de la science, là. Moi, ce que j'en comprends, non-expert que je suis, c'est que finalement, le virus peut se transmettre dans des toutes petites gouttelettes que l'air peut transporter, alors qu'on pensait qu'il se transmettait surtout dans des gouttelettes plus lourdes qui tombaient sur le sol et qui n'allaient pas plus loin que 2 mètres, de là la distance de 2 mètres. Là, on se rend compte que le virus pourrait voyager parce que les gouttelettes toutes petites restent suspendues dans l'air, puis à un moment donné, si tu les respires, tu pourrais t'infecter.
Oui, bien en fait, l'affaire, je pense, au début, il y a eu un débat de définition qui a fait en sorte que les gens se parlaient mais s'écoutaient pas. Je pense qu'il y a eu la définition des aérosols au départ qui est envisagée, qui était vraiment les aérosols comme on les connaît, les purs, c'est-à-dire comme ce qui transmet la tuberculose entre autres. Donc, c'est aérosols obligatoires, très, très, très petites particules qu'on peut respirer, qui peuvent se rendre profondément dans le poumon. Par contre, il y a beaucoup d'autres virus, sans doute incluant le virus de la COVID ou le virus influenza ou d'autres types de virus, qui peuvent utiliser des modes de transport qui sont moins clairement uniquement à l'air, mais qui peuvent aussi voyager à travers des particules, pas nécessairement les plus petites qui peuvent parcourir des kilomètres, mais peut-être appelons-le les aérosols de taille intermédiaire, c'est-à-dire sont assez petits pour demeurer dans l'air pour une période importante ou significative, donc ça peut être juste quelques minutes. Mais certainement pas pour, comme certaines maladies qu'on connaît, qui peuvent aller dans l'air extérieur ou parcourir des longues distances. Ça, on n'a pas observé ça. Cependant, ce qu'on observe, c'est que quand on est dans des milieux où il n'y a pas nécessairement capacité qu'une personne, mettons, envoie un postillon sur une autre personne, il peut quand même y avoir des cas d'infection à des distances un peu plus grandes. Puis c'est là que joue un peu l'importance de la ventilation dans le contrôle de cette forme de contamination-là. Donc, les particules sont pas nécessairement hyper petites, sont pas trop, trop grosses, donc ils tombent pas vite au sol, mais peuvent quand même rester assez longtemps pour que si vous êtes proche de quelqu'un, bien, vous allez les inhaler, ces particules-là, puis éventuellement pouvoir attraper la maladie.
Là, j'ai un chauffeur de la Société de transport de Montréal qui me pose la question. Il dit, pouvez-vous demander à votre invité ce qu'elle en pense de la possibilité d'attraper le virus dans un autobus qui est bondé de personnes? Il me donne l'exemple de quelqu'un, là, lui était comme passager à ce moment-là, il chauffait pas l'autobus, mais il dit, il y avait quelqu'un dans l'autobus qui toussait fort à l'arrière, là.
Bien, ça peut arriver. En fait, il faut avoir 2 choses en tête. Il y a les méthodes qu'on appelle d'ingénierie qui peuvent faire en sorte que ces fameuses particules-là sont éliminées à mesure. Là, on pense des changements d'air, on pense à la ventilation qui peuvent être présentes dans ces autobus-là, même les fenêtres ouvertes, par exemple, ça peut aider. Il y a d'autres choses. C'est quand on porte le masque, là, le fameux masque, là, on l'a dit depuis le début, hein, c'est pas pour se protéger nous, c'est pour protéger les autres. Le masque est vraiment vu un peu comme une approche d'ingénierie, c'est-à-dire que ça bloque la source d'émission, ça bloque l'émission des particules dans l'air. Oui. Ça bloque pas complètement, mais les études qui avaient été faites il y a quelques années sur d'autres virus, mais c'est un peu similaire, avec des masques comme ceux-là, disaient qu'ils bloquaient de 25 fois les aérosols un petit peu plus gros dont je vous parlais, puis d'à peu près 5 fois les aérosols très, très petits. C'est quand même important, là. Oui. Fait que oui, si jamais quelqu'un se met à tousser, il n'y a pas de... Ça se pourrait qu'il y ait des particules qui soient libérées, là, ça, c'est sans équivoque. Cependant, le port du masque, c'est pour ça qu'il est si important dans les lieux publics, justement, parce que dans les situations où peut-être que les gens sont plus collés, il y a moins de ventilation, ben oui, ça bloque quand même de façon significative, puisque quelqu'un va émettre, en fait, si... Puis maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on va pas juste émettre du virus qu'on tousse. Quand on respire, on va pouvoir émettre du virus. Pas toujours de la même façon. Ça, c'est très, très, très variable d'une personne à l'autre, selon les études aussi. Mais bon, En respirant, on peut émettre des virus. En toussant, en éternuant aussi. Donc, toutes ces façons de faire-là, d'émettre, ben, vont être contrôlées par la ventilation ou bien aussi par le port d'un masque qui va bloquer une certaine partie de tout ça.
Qu'en est-il des centres d'achat? Parce que Maïssa Ferra de la presse nous rapporte là que en fin de semaine, puis il y a des photos à l'appui, là, notamment au Carrefour Laval. Là. Écoute, c'était ça n'a pas de bon sens. Là. Il y avait du monde. Est-ce que ça se peut que tu marches dans le centre d'achat ou tu fais la file pour rentrer dans un commerce et puis tu as des gens dans la file qui ne le savent peut-être pas, qui sont asymptomatiques et qui projettent du virus dans l'air et puis ce virus-là, peut-il rester suffisamment longtemps en suspension pour qu'à un moment donné, toi, tu le respires, tu l'inspires?
C'est sûr que chaque environnement va être un cas de figure différent, mais moi, dans ma tête, là, d'aller se mettre en groupe dans l'air intérieur, dans un environnement clos, dans une situation de pandémie internationale, je trouve ça un petit peu contre-productif. Là. En partant, là, même
vous
pas
en tant que scientifique. Vous êtes gentille, Caroline. Vous pourriez dire, je trouve ça un petit peu épais.
Moi, je comprends pas, en fait. Tu sais, je comprends qu'il y a des choses qu'on n'a pas le choix de faire, mais c'est certain que parmi les facteurs de risque d'attraper la COVID, ben, d'être en groupe dans un endroit fermé, ça fait partie des situations les plus à risque. Donc, c'est certain que malgré le fait qu'il y a peut-être des endroits qui sont super bien ventilés, les gens portent le masque comme il faut, ça diminue le risque. Ça joue en faveur des gens. Mais en partant, il faudrait toujours avoir en tête que quand on est à l'intérieur, ben on augmente nos chances d'être en contact avec des contaminants, puis dans l'air et sur les surfaces aussi, parce que quand bien même on fait attention, ça exclut pas qu'il peut y avoir d'autres types de contamination aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça, je sais pas si c'est la meilleure des idées de se ramasser en grand groupe dans des endroits clos, là, surtout de façon volontaire, sans être obligé de le faire. J'ai de la misère à comprendre. Je suis pas capable de vous donner le niveau de risque, mais je suis certaine que c'est pas une situation qui est nécessairement positive. Là.
Voilà. Pourquoi prendre un risque inutile, dans le fond, c'est
voilà.
Ça.
Puis, on fait assez de sacrifices comme ça.
Puis on conclut une entrevue comme celle qu'on vient d'avoir en se disant que l'aération, les systèmes de ventilation sont encore plus importants qu'on le pensait, notamment dans les écoles. Hein, je pense qu'on peut se le dire.
Tout à fait. En fait, il faut l'avoir en tête parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler peut-être un peu hérétique, là, mais on n'a pas encore démontré comment on peut attraper la COVID à partir d'une surface. Mais pourtant, tout le monde s'entend pour nettoyer les chariots d'épicerie, puis on est tous d'accord avec ça. Tandis que des preuves de transmission par l'air, des preuves indirectes de présence, même directes de présence du virus dans l'air, ça, on en a plein, puis on a de la misère à assumer ça, que la ventilation puis que l'aération, ça va être important, mais je pense qu'il faut juste l'avoir en tête, puis ça fait partie des méthodes de prévention de la transmission de la maladie, au même titre que le lavage des mains puis le lavage des surfaces.
C'est ce que j'appelle une conclusion. Caroline Duchesne, hein, professeure de microbiologie, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols à l'Université Laval. Merci.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin d'après-midi.
Vous aussi, à la prochaine.
Au revoir. Merci.
On s'en va en Chine après la pause. Honnêtement, là, que vous aimiez le régime chinois ou pas, là, ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est littéralement un exploit. Et on a un Québécois là-bas qui va vous expliquer ce qu'il en est. Restez à l'écoute.